Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Je rentre du Mexique il y a 15 jours, donc le temps que je remette ma vie en place, j'avais pas mal de choses à récupérer, aller à droite, à gauche en fait.
Et qu'est-ce que t'es venu faire ici aujourd'hui? Donc on va décrire peut-être l'endroit dans un premier temps, on va essayer de créer une dimension visuelle à celui qui nous écoute.
L'abbaye de Lépo. L'abbaye de Lépo, j'ai connu ça grâce à Pascal Kitomel, là, qui est donc des professions photographes, magazine, que j'ai rencontré il y a quelques années suite au concours Les Photographies de l'année. Donc du coup de là, avec ses contacts, on a réussi à trouver un des endroits pour exposer, dont celui-ci, qui est la Ville du Mans, avait acheté quelques-unes de mes photos. Et puis là, pour la remise des prix des photographies de l'année, donc qui a eu hier soir, Pascal m'a appelé me demandant si je pouvais venir exposer mes photos ce week-end. Donc je pouvais pas être là hier, mais voilà, j'ai réussi à venir pour aujourd'hui.
Et donc c'est des photos qui ont déjà été primées ici à ce concours photographie de l'année?
Oui, en 2014, donc c'était en 2012. Alors, niveau reportage, j'ai eu le deuxième prix, la chance d'avoir eu le deuxième prix.
Bon, allez, on va rentrer dans le sujet. Comment tu t'appelles?
Mathieu.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alex.
Alex.
Donc Mathieu, tu rentres du Mexique, tu y vas pour ta profession de photographe, ou peut-être avant de savoir ce que tu fais, j'ai envie de savoir qui tu es.
Alors, qui je suis? Donc je m'appelle Mathieu Germain Lambert, photographe passionné depuis mon plus jeune âge, donc à peu près de mes 14-16 ans. J'ai commencé des tirages noir et blanc, à faire des tirages noir et blanc à cet âge-là, donc il y a pas plus de 20 ans maintenant. J'ai commencé par la photographie filmage. Donc, être photographe filmeur, c'est faire des photos souvenirs sur les plages ou sur les pistes de ski, que je fais toujours actuellement, puisque c'est 90% de ma source alimentaire annuelle, on va dire. Je cours pas après les reportages pour en vivre, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et puis je fais juste ça à titre passionnel, on va dire, dans le sens où je reste libre des choix et des photos que j'ai envie de faire, et comme ça j'ai un engagement un peu plus important. Donc de là, bah, j'en fais peut-être un, voire un tous les ans, ou un tous les deux ans.
Mais donc ton modèle économique, c'est avant tout faire de la photo, tu disais souvenir, enfin sur les pistes de ski ou au bord de l'eau.
Voilà, depuis 98 je fais ça, en 2007 j'ai créé quelques magasins, et puis du coup ça me permet de faire que la saison d'été. Et du coup, ça me laisse tout l'hiver pour justement voyager et faire mes reportages humanitaires.
Ben, je vais quand même parler de ton boulot, parce que ça m'intéresse, ça me renvoie à quand j'étais ado, que j'allais faire du ski, et qu'on me prenait en photo, et au bas de la piste, on me vendait un tirage. Comment ça fonctionne ça? Tu es indépendant pour faire ça? Est-ce que tu viens avec ton pied, ton trépied, tu te poses au milieu de la piste noire, quand les mecs se cassent tous la gueule sur la bosse, et puis tu vas leur revendre à la... Comment ça marche?
Alors, en général, on travaille pour des boîtes de photographie qui emploient donc des photographes débutants, souvent, qui sortent des écoles de photographie. On accoste les clients sur les pistes de ski ou sur la plage, et puis on essaie de se vendre, essayer de vendre notre art entre guillemets, puisque ça reste de la photo de portrait d'enfant, donc c'est plus de souvenirs que de l'art. Maintenant c'est un bon principe, puisque c'est un métier qui a toujours, ça fait un peu plus de 50 ans que ça existe en France. Maintenant c'est connu un petit peu partout en France, sur la côte atlantique, les Alpes et la côte méditerranéenne. Indépendant, il y en a de plus en plus, puisque maintenant avec l'auto-entreprise, c'est vrai que il y en a beaucoup qui se lancent avec les écoles de surf par exemple, qui veulent travailler pour eux et dépendent de personne. Moi j'ai toujours été plus ou moins employé jusqu'à la création de certains magasins à une époque, en 2007 en gros. Donc que dire là-dessus, c'est un métier qui est très répétitif. Voilà, certains photographes, on peut dire que c'est le dénigre un petit peu. Maintenant, c'est un métier où techniquement on apprend beaucoup, puisqu'on en fait énormément. Faut avoir beaucoup de blabla. Faut réussir à soit séduire par l'humour, soit séduire par la qualité de la photo. Et puis bon, c'est un métier qui est de plus en plus difficile, puisque tout le monde a un appareil photo numérique. Maintenant, quand les clients se laissent prendre en photo et qu'ils viennent voir le résultat, ils voient bien qu'on a quand même le côté technique qu'eux, ils n'ont pas avec leur bridge ou leur compact, forcément, même avec leur réflexe. On peut avoir un beau réflexe, c'est pas ce qui fera leur photo, quoi.
Et donc tu fais la photo, mais après tu la vends aussi, t'as deux parties, quoi. T'as la partie technique, mais la partie commerciale.
Voilà, exactement. Donc on accoste les gens, on leur met une petite carte qui leur permet d'avoir accès au magasin, de façon à retrouver leur cliché. Ensuite, ils regardent leur photo. Maintenant, c'est sur ordinateur. Avant, c'était sur planche contact, mais maintenant, c'est sur ordi. Une question d'économie, forcément, on y passe tous. Et puis, ils choisissent leur photo s'ils veulent acheter. Bon, après, en fonction du tarif, en fonction de la région, en fonction de tout ça, il y a des forfaits aussi. On tire les photos qu'ils nous ont demandé.
Et donc, grâce à cette profession photographe, ça te permet aussi d'avoir des projets perso, de photographie aussi, de partir régulièrement à l'étranger pour voyager ou pour vraiment réaliser du reportage? Quelle est ta démarche dans le voyage?
Alors, la première chose, c'est, je dirais, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours voulu être reporter. Voilà, c'est vrai que je suis rentré dans le milieu il y a à peu près 5-6 ans, réellement. Au début, je voyageais pour être reporter, après j'ai voyagé pour découvrir les cultures, etc. Et puis de fil en aiguille, en m'intéressant un petit peu plus, en prenant un peu plus le temps. Au début, je crapahutais partout, j'allais partout, donc je prenais pas vraiment le temps, donc je faisais une petite photo par-ci, une petite photo par-là. Et puis un sujet, ça se travaille, faut le connaître, faut savoir où est-ce qu'on met les pieds, pas raconter n'importe quoi, c'est important. Donc du coup, maintenant, c'est sûr que ça me permet de voyager pour faire du reportage. Voilà. Mais j'oublie pas le côté plaisant, le côté du plaisir aussi, la découverte par rapport à soi-même, par exemple.
Ouais, c'est la question que j'aime bien poser. Qu'est-ce que c'est pour toi le voyage? Si tu devais définir ce terme, qu'est-ce que c'est que voyager?
Voyager, c'est un grand mot. La découverte des cultures, la découverte des façons de vivre, d'autres philosophies de vie, d'autres principes de vie. Ouais, c'est vrai que pour moi ça a été une très bonne expérience pour arrêter de me plaindre entre guillemets en tant que français.
Pareil qu'on est râleur.
Oh, énormément, ouais. Ça c'est une certitude, même moi le premier, hein. Dès que je rentre en France, c'est sûr, là je commence à... Bon, on rentre dans le premier mois, on se dit oh, on a de la chance, et puis après on rentre dans le mouvement français, râleur. On a très bonne réputation à ce niveau-là, les Français, on est les number one, je pense. Ouais, c'est sûr.
C'est qu'on est connu pour ça, romantique et râleur. Mais bon, romantique de moins en moins, c'est quand même de plus en plus râleur qu'on se prend comme retour.
Romantique, ça plaît aussi, hein. Ça peut plaire. Après, non, le voyage, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la découverte de soi. Beaucoup. On apprend beaucoup sur soi, bien sûr. Puis sur les autres. Voilà, tout le monde n'a pas l'opportunité, tout le monde ne peut pas voyager parce qu'on choisit un autre rythme de vie. Après avec des obligations, enfants, maison, etc. Donc pour l'instant moi j'ai pas tout ça, donc j'ai encore cette liberté là. Je pense que si on fait bien les choses, on peut toujours avoir des biens, etc. et puis aller à la découverte du monde différemment, mais il y a toujours possibilité pour celui qui veut. Quand on veut, on peut, on a toujours dit.
Ouais, allons au-delà de nos peurs, allons-y quoi. C'est souvent ça, c'est les barrières de l'inconnu qui nous effrayent. On se dit, bah, je peux pas, c'est trop loin, c'est trop dur, je peux pas. Et en fait non, c'est juste des peurs des fois qui nous bloquent. Et le voyage, bah, suffit d'y aller.
C'est sûr, c'est... Faut prendre un billet d'avion, voilà, aller sec et puis voir quand est-ce qu'on revient quoi.
Peuvent penser, au moins moi je sais que c'est pour eux qu'on ouvre des bordels en Thaïlande, y'en a que pour eux, ils disent que la France est grande, je me demande à quel macro je paye des impôts, ah, c'est à celui qui me traite de négro, qui me dit que ça pue dans mes escaliers, et que ça gêne qui? Mon voisin de palier, un mec qui saoule au Ricard et frappe sa femme, vivre au quartier est tout son drame, qui? En BM et dit que je vends de la cam, qui fait des fausses dépositions, qui fout des mecs en prison, qui va pleurer au poste et qui porte du Lacoste. Être sous le signe de l'hexagone,
ouais,
c'est vraiment pas une sinécure,
et tu le sais.
Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr.
Mathieu, donc on va resituer, on est à l'abbaye de l'Épau, hein, donc il y avait hier soir effectivement la remise des prix aux différents finaliste de la photographie de l'année 2013-2014. Toi, tu as participé à ce concours et ton expo, on peut la voir aujourd'hui. Donc, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ce reportage photo. Où est-ce qu'il a été pris? Pourquoi ce pays? Quels ont été? Qu'est-ce que tu as retrouvé? Parle-moi, présente-moi le reportage.
Alors, j'ai pas participé au concours de cette année-là, ni de celui-là l'année dernière. C'est vrai que j'ai fait le concours en 2012 et c'était un des tout premiers que je faisais d'ailleurs. C'était d'ailleurs même le dernier pour l'instant. J'ai rien représenté vraiment d'autre. Je fais vraiment pas de la photo pour présenter au concours ou pour en vivre. Je fais vraiment ça dans le but. J'ai toujours voulu un petit peu faire l'humanitaire. Maintenant, je suis pas médecin, je suis pas bricoleur pour un sou. Donc, je me suis toujours dit qu'avec à travers la photo, ça me permettrait d'avoir accès et peut-être de donner quelques clichés pour la communication pour certaines ONG. Donc, si je reviens 2 ans en arrière, même 3, puisque j'ai commencé ce sujet-là il y a 3 ans, j'ai travaillé pendant 1 an et demi dessus, en faisant plusieurs allers-retours entre la Thaïlande, la frontière thaïlandaise, birmane, et puis en allant en Birmanie également pour les élections. J'ai beaucoup travaillé sur les réfugiés en fait, tibétains au Népal, en Inde également, et puis là principalement donc sur les réfugiés birmans qui vivaient dans des conditions très sommaires, dans des camps de réfugiés.
Mais donc du côté thaïlandais.
Côté thaïlandais, à 5 km de la frontière de Birmanie.
Mae Sot,
exactement. Donc de là, il y avait trois camps de réfugiés et en fait, compte où il y avait quand même pas mal d'ONG qui intervenaient, c'était assez fermé en fait. Mais bon, en travaillant plus ou moins ou en intervenant pour des ONG, on avait accès sur place. Maintenant, je pense pas que, même si c'est des réfugiés qui ont des conditions de vie un peu particulières, pour moi, c'était pas ceux qui étaient les plus défavorisés. Après, j'ai eu l'occasion de rencontrer donc des réfugiés birmans qui vivaient dans une décharge. Et là, c'est là que je me suis dit, là, c'est vraiment précaire, quoi. Il y a vraiment pas grand-chose. Il y avait des moines bouddhistes qui éventuellement les aidaient, quelques ONG italiennes avec des cliniques mobiles, des médecins pour les soigner s'ils avaient besoin. Et donc du coup, je me suis penché là-dessus et j'ai travaillé une année. La toute première fois, je suis allé pendant 3 mois là-bas, tous les jours quasiment, pour faire les photos en fonction de la lumière, etc. Et puis j'ai retourné l'année d'après, enfin peut-être un peu plus de 6 mois après, pendant 2 mois, et j'ai retourné l'année d'après encore pendant 1 mois pour finir ce sujet-là.
Alors tu me parles de réfugiés, qui dit réfugiés, c'est donc qui ont quitté leur pays. Pourquoi est-ce que les Birmans, enfin déjà est-ce que c'est les Birmans, parce qu'en Birmanie tu as différentes ethnies. Ouais. Aujourd'hui on parle du Myanmar, donc le Myanmar c'est finalement le mot qui unifie toutes les ethnies au sein du pays. Est-ce que là on parle des Birmans, est-ce qu'on parle des Karen, est-ce qu'on parle des Pao, on parle de quel peuple quand on parle des réfugiés birmans et pourquoi est-ce qu'ils ont dû quitter leur pays?
Alors de quel peuple on parle? On commence par lequel? On commence pourquoi ils ont quitté leur pays? La Birmanie. La Birmanie est un grand pays corrompu, c'est comme beaucoup de pays en Asie, mais qui est contrôlé par la junte militaire depuis plus de 60 ans. On entend très peu parler parce que je pense qu'il y a des enjeux économiques. C'est un des pays d'Asie du Sud-Est qui est certainement le plus pauvre par rapport à la population, mais un des plus riches en tout cas par rapport aux minerais au niveau du gouvernement. Il y a des compagnies comme Alcatel, Total, là je parle des compagnies françaises qui sont bien implantées là-bas, sans qu'on parle des compagnies chinoises et autres, évidemment. Donc c'est un pays où on entend des parler, mais sans trop en dire en fait. La raison pour laquelle, je sais pas, mais bon, je pense qu'il y a des enjeux économiques importants. On a beaucoup entendu parler d'autres pays comme la Libye, la Syrie, la révolution arabe, etc. Mais il y a quand même à côté de ça plein d'autres pays qui malheureusement depuis plusieurs années c'est une dictature et puis on ferme les yeux, en tout cas c'est pas d'actualité, ils sont pas musulmans, donc là c'est vrai qu'on fait un tout pataquès sur le côté musulman, etc., révolution arabe. Maintenant, il y a beaucoup d'autres endroits en Afrique, en Asie où malheureusement les gens souffrent différemment, mais souffrent quand même, quoi. Donc c'est un pays qui est en guerre. C'est pas en guerre comme on peut le concevoir, où ça canarde tous les jours, mais oui, il y a des états Karen qui est à peu près à l'ouest, à l'est de la Birmanie, au milieu à peu près du pays. Il y a l'état Mong, l'état Hong aussi, un peu plus au sud.
L'état Shan aussi à la frontière.
La Shan State, là justement, qui est entre guillemets encore fermée, qu'on entend parler dernièrement. C'est depuis les élections, quand j'étais en Birmanie pour couvrir les élections à Aung San Suu Kui, j'avais entendu parler de cet état-là, l'état de Shan. qui était encore entre guillemets fermé, mais bon.
L'État. Et qui l'est toujours. Hein. Maintenant, il y a le Rakhine aussi, l'État a un parti ouest, à la frontière avec le Bangladesh, où il y a aussi beaucoup de problématiques entre les monks, les moines et les musulmans.
Et les musulmans, oui. On parlait de génocide, j'ai entendu parler de génocide. J'ai des amis qui étaient sur place, là encore, il y a l'année dernière, ou il y a un an et demi à peu près, qui m'ont envoyé quelques informations là-dessus. Ouais, on parlait de génocide sur les gens du Bangladesh qui venaient se réfugier justement en Birmanie, et puis ils essaient de les retirer de la Birmanie, puisque, voilà. C'est un truc sans fin. C'est quelque chose qui est sans fin. Donc moi, j'ai principalement travaillé sur les carènes. Pourquoi ? J'ai atterri à Mysore, c'était beaucoup de carènes. J'ai travaillé un petit peu au nord aussi avec les monts. Maintenant, mon travail s'est axé sur la communauté carène. Voilà, avec les carènes National Army aussi. Et puis bah, surtout bah, tous ces paysans qui n'ont rien demandé à personne et qui voulaient juste fuir le pays pour vivre entre guillemets tranquille. Le problème, c'est que vivre tranquille en tant que réfugié dans un pays corrompu, ça m'est arrivé de voir de mes propres yeux des échanges d'argent parce qu'ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de carte d'identité thaïlandaise, donc ils sont parqués ici. Et s'ils sortent et s'ils se font choper par la police thaïlandaise, bon, il y a toujours moyen de s'arranger, mais pour eux, c'est quand même beaucoup d'argent. Pour nous, 500 bahts, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour eux, c'est énormément d'argent. Donc voilà.
Il y a aussi quelque chose qui m'avait frappé en Thaïlande, c'est aussi des Birmans, donc là on va parler, c'est aussi des Karen, mais les Karen girafes, les femmes girafes, où on retrouve des camps, hein, donc ce sont des réfugiés qui viennent de Birmanie, qui sont entretenus par le gouvernement thaïlandais, parqués dans des villages, pour permettre aux touristes d'aller voir les ethnies Karen. Je ne sais pas si tu as aussi eu l'occasion de rencontrer cela. Donc finalement, c'est complètement dénaturé. Hein. On va dans des villages Karen, femmes girafes, mais qui viennent de Birmanie, qui eux ont le droit de rester de manière légale en Thaïlande, parce que ça rapporte de l'argent à l'entrée du village où tu payes ton ticket pour aller les photographier. Et c'est de l'argent qui va enrichir les caisses du gouvernement thaï.
Exactement. Mais je crois qu'ils sont mis dans les montagnes là-haut, et puis ça fait une sorte d'éco-tourisme, comme ils peuvent dire, pour bien sûr. Pour une question financière, ça rapporte de l'argent. De toute façon, tout ce qui est touristique en général, à partir du moment qu'il y a des visites et un peu d'argent, les Occidentaux, forcément, on est prêt à débourser pour arriver avec nos appareils photo et dire on a fait du tourisme et on a vu ci ou ça. Quoi.
Écologique.
Et solidaire. Et solidaire, entre guillemets, ouais. Ouais, donc.
Donc toi, dans le village à Mayasot, donc la communauté, la frontière avec la Birmanie, tu te bossais avec les populations karen réfugiées. Quel était l'accueil et quel était l'avenir? Comment tu vois l'avenir? Comment est-ce qu'eux voyaient leur avenir et voulaient rentrer chez eux en Birmanie, s'insérer en Thaïlande? Quelle est la vie, quel est le quotidien d'un réfugié?
Le quotidien d'un réfugié, déjà, c'est de survivre d'une manière ou d'une autre. Forcément, étant donné qu'ils n'ont pas réellement d'identité en Thaïlande, leur but, pour la plupart d'entre eux, c'est de retourner dans leur pays, sur leur terre, avec leur ferme et vivre tranquillement parce qu'ils n'ont rien demandé à personne. Ils subissent plus les problèmes politiques et économiques, voilà, que la junte militaire impose, entre guillemets, à la population birmane en général, que ce soit Karen ou autre. Maintenant, j'ai aussi rencontré comme des anciens réfugiés politiques qui m'ont donné accès à certains endroits qui, eux, on va dire qu'ont une éducation, donc ils voient un petit peu leur avantage d'être en Thaïlande, de parler leur histoire, et puis bah, qui arrivent à très bien vivre par rapport à ces réfugiés qui restent réfugiés, mais qui ont les moyens d'avoir un passeport, parce que là-bas tout s'achète, un passeport ça se fait, puisqu'on en a acheté un pour quelqu'un qui m'a servi de traducteur, qui est devenu un ami, et malgré qu'il a encore toute sa famille en Birmanie, ce qu'il veut c'est l'ouverture du pays de façon à ce qu'il puisse retourner voir sa famille, mais là, son intérêt c'est de rester en Thaïlande. Il parle thaï couramment, anglais couramment, il travaille pour des ONG, une ONG australienne là aux dernières nouvelles, et il en vit très bien, quoi. Il est heureux là où il a sa petite moto, il a son petit salaire, c'est quelqu'un qui a fait des études. À l'équivalent de chez nous, je sais pas, mais il a arrêté ses études, il avait 22 ans. Moi, il a été traducteur pour moi pendant ces deux années d'études là. Donc lui, non, je pense qu'il restera bien en Thaïlande, c'est quasiment une certitude. Sans oublier ses racines et puis ses origines et sa famille, je pense. Et c'est un jeune homme qui avait 15 ans quand il est parti de la Birmanie et qui est d'origine catholique. Donc il venait du nord de la Birmanie, qui a traversé également toute la jungle, m'a raconté son parcours. Et quand je l'ai rencontré, il avait 19 ou 20 ans. Quand je lui parlais, j'avais l'impression de parler à quelqu'un qui... Voilà, il était quelqu'un. Avec un charisme, avec une histoire, un vécu, un regard, c'est sûr. rien à voir avec moi quand j'avais 20 ans.
Et donc tu as passé 2 ans sur ce projet ?
2 ans pour, pas 2 ans complets, mais 2 ans en y allant plusieurs fois. Pendant 2 ans, oui, j'ai passé 2 ans à travailler là-dessus.
Et donc quelle était la finalité ?
La finalité, elle en est là aujourd'hui où j'ai des doutes. Voilà, ça remet beaucoup de choses à force de travailler avec des ONG. J'ai pas envie de dire de mauvaises choses sur les ONG. Je pense que tout le monde est au courant, on le sait tous. Il y en a des bonnes et des très mauvaises. Maintenant, par expérience, c'est vrai que moi personnellement, mon ressenti, c'est donc, du coup, ça remet beaucoup de choses en doute dans mon travail. C'est qu'en espérant, en essayant d'essayer d'apporter quelque chose, en montrant ce qui se passe au monde, déjà, il y a une toute petite minorité de personnes qui s'intéressent vraiment. Je pense qu'on regarde plus son nombril que de regarder ce qui se passe à l'étranger. Au pire des cas, quand on voit une fois, on dira les pauvres, mais voilà, on reste réellement indifférent. On regarde et 2 heures après, on a oublié ce qui se passe ou ce qu'on a entendu parler. Donc ça me déçoit un peu. Je pense que le fait d'être sur place, de vivre avec eux, d'avoir des émotions avec les enfants, les gens, les femmes, enfin, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Maintenant, par exemple, un truc tout bête, mais j'en suis au point à me dire, au final, on a essayé d'aider. En vendant des photos, je reverse 30% par exemple à des ONG. Quand je vends des photos ou un reportage, il y a 30% du budget, comme je ne le fais vraiment pas pour l'argent. Évidemment, si ça me paye mon voyage, mon billet d'avion, tant mieux. Mais ces 30%-là, la dernière fois, m'ont permis de reverser à peu près 1000 euros à une ONG qui s'appelle Crio Corundo, qui a permis de donner 2000 et quelques repas à des enfants de réfugiés, etc. Mais avant ça, j'avais collecté en vendant bêtement, enfin pas bêtement, mais en vendant à 3 euros ou 7 euros, je ne sais plus, une image numérique, de façon à récolter des fonds pour acheter du riz. Donc ça nous avait permis d'acheter 800 kilos de riz qu'on a distribué à 25 familles qui étaient sur une partie de la décharge. Mais de l'autre partie, il y avait une autre partie du lac, de l'autre côté, il y avait d'autres familles, 75 familles à peu près. Et du coup, bah, c'est pas qu'on a favorisé, c'est qu'on a travaillé. Moi, j'ai travaillé principalement sur ces 25 familles-là et ça crée des jaloux de l'autre côté. Donc, alors que c'était des gens qui étaient dans la même galère, dans les mêmes conditions de vie. Et malheureusement, apprenant qu'on avait donné du riz à ces familles, l'autre communauté, enfin qui est la même, mais ont été jaloux, ils sont venus avec des bâtons et casser la gueule un peu à tout le monde, enfin voilà, mettre les choses régler les choses, enfin là je sais pas comment dire, c'est ce que je me dis en fait, c'est qu'en essayant d'aider, je me dis qu'on critique des pouvoirs, des gouvernements, et je commence à me poser la question, voir si ces personnes-là qui avaient une éducation et qui seraient au pouvoir, est-ce qu'ils seraient pas aussi pourris que ceux qui le sont actuellement, quoi. Donc en fait c'est un cercle vicieux, on tourne en rond, quoi. Et ce qui me rend peut-être un peu plus égoïste, c'est de me dire, bon, je relativise un peu, et puis du coup, j'essaie de trouver des sujets peut-être plus sociaux qui nous concernent, nous. En tant que Français, je pense qu'il y a pas mal de choses aussi à faire en France. Mais au final, je m'aperçois qu'il n'y a pas de solution. On essaie de bien faire, alors des fois on gagne des prix, à part notre ego qui en monte en puissance, entre guillemets. Honnêtement, ça ne change rien pour les conditions de vie de ces gens-là. On rêve un peu, je pense. Maintenant, je trouve que c'est important. Je pense que le meilleur des choses, en fait, c'est de voyager, aller à l'encontre, et pas voyager dans son bus, à traverser vite et rester dehors, mais vraiment être au contact de l'humain et d'en tirer sa propre conclusion, parce qu'en fonction de sa propre éducation, on peut avoir une vision différente des uns et des autres. Donc, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse à tout, mais faire sa propre expérience et aller découvrir par soi-même. Je pense qu'il y a mieux que c'est encore mieux que de regarder les infos où on nous berne en fonction des enjeux économiques qu'il peut y avoir là-dessus, s'ils sont de droite, s'ils sont de gauche, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Quand je fais de la photo, quand je fais un reportage, je ne prends pas de parti. J'essaie de juste montrer une façon de vivre, une philosophie. À travers cette misère-là, on voit encore des sourires d'enfants qui se contentent de jouer avec des canettes de coca recyclées, même éventuellement ce que j'ai pu voir, des bouts de plastique et des bouts de seringue, enfin sans l'aiguille, mais voilà, avec des poupées sans tête, des fusils en plastique récupérés qui sont cassés. On est loin de nos Xbox 360, je sais pas où est-ce qu'on en est là-dedans, mais on est loin de tout ça, quoi.
them say injustice a way them really need overall. The way them deal with mankind, all my girls start bad. Justice a way the youths them need overall. The way them deal with mankind, hey yo. And then she not go cry for no guy in a no 3-piece suit. Nah, no pretty boy in a no Chris Nike boot. She no fall for no dapper, she no cry for no dupe. She shed those lonely tears for the little ghetto youths. They're falling starry, starry. Ex-news and cleaner. Food might be dirty, but his heart is much cleaner than those politicians fighting dunks and semenia. And get up every day, them want to run this arena. Extra, extra, read all about it. Get a youth in need and there is no doubt about it. If baby won't feed and can't do without it, Big 45 going to scout it. Oh no, the youths them balling out. And you did get a youth them balling out.
Bon, en tout cas, voyage, t'en es pas arrêté là, t'as continué. Là, tu me parles du Mexique, donc c'était quoi? C'était un autre reportage ou...
Le Mexique, non, c'était vraiment plus partie de plaisir, on va dire. En fait, je suis parti 2 mois en Indonésie. Là, c'était dans un but de faire un reportage sur des réfugiés syriens, avec un boat people qui avait échoué en septembre, qui allait sur Christmas Island. Donc, Christmas Island, c'est une île australienne. Et le gouvernement australien a changé, ils sont en train de fermer les frontières parce que c'est plus ou moins une terre d'accueil, une île d'accueil en tout cas, Christmas Island. Et je suis parti dans ce but-là avec à la base un ami où on devait se retrouver pour des raisons familiales. Malheureusement, je suis parti plus tard que prévu et lui, il a dû partir plus tôt que prévu, donc on s'est juste croisé. Et puis la vie a fait que, au lieu de faire ce reportage qui me paraissait bien compliqué entre les contacts un peu gérés par une mafia locale où il faut payer, qui profite justement de ce qu'on aimerait voir ou ce qu'on aimerait retirer comme photo, ça fait partie du jeu aussi évidemment, des fois ça arrive. Mon côté mafieux, ça m'a un peu... ça m'a un peu empêché de le faire dans le sens où je suis pas convaincu de donner de l'argent comme ça à des gens qui s'enregistrent sur la misère du monde quoi. L'un dans l'autre, hein, quand je fais des reportages, je vends des photos, je vais pas dire que je m'enrichis, mais ça me paye mes avions, donc on pourrait dire que c'est un peu la même chose. Mais là, c'était vraiment dans un autre but. Donc, au final, je me suis retrouvé à Java, en Indonésie, et puis du coup, j'ai pas vraiment travaillé, j'ai beaucoup pris de bon temps, voilà, avec les locaux. C'est vrai que c'est une belle île, belle grande île, et c'est un très beau pays pour ma part, j'aime beaucoup l'Indonésie. Et puis, je suis rentré en France 3 semaines, histoire de travailler un petit peu, et je suis reparti 3 mois au Mexique. Voilà, 3 mois au Mexique pour... Là, c'était vraiment plus la découverte de l'Amérique, l'Amérique centrale que je connaissais pas. Donc, avec d'éventuels apprendre l'espagnol, parce que pour faire un reportage, il faut connaître les langues, c'est un plus. La communication est importante, je pense. Donc, du coup, plus en découverte. J'avais mon appareil photo, évidemment. Voilà, à part un petit truc sur l'écotourisme là-bas, dans les montagnes et tout. Mais il n'y a rien de... d'humanitaire dans ce voyage-là.
On va quand même finir en donnant ton site où on peut voir ton travail.
Alors, mon site, c'est www.mglphotographie.org. Voilà, ça c'est mon site.
Mathieu
Germain Lambert. Merci à toi, merci beaucoup.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.